Deuxième partie, chapitre 4. Monsieur de Norpois noya son regard bleu dans sa barbe blanche, abaissa profondément sa haute taille, comme s'il l'inclinait devant tout ce que lui représentait de notoire et d'imposant le nom de Bloch, murmura « Je suis enchanté !» Tandis que son jeune interlocuteur, ému mais trouvant que le célèbre diplomate allait trop loin, rectifia avec empressement et dit « Mais pas du tout, au contraire, c'est moi qui suis enchanté. » Mais cette cérémonie que M. de Norpois, par amitié pour Mme de Villeparisis, renouvelait avec chaque inconnu que sa vieille amie lui présentait, ne parut pas à celle-ci une politesse suffisante pour Bloch, à qui elle dit « Mais demandez-lui tout ce que vous voulez savoir, emmenez-le à côté si cela est plus commode. » Il sera enchanté de causer avec vous. Je crois que vous vouliez lui parler de l'affaire Dreyfus, ajouta-t-elle sans plus se préoccuper si cela faisait plaisir à M. de Norpois qu'elle n'eût pensé à demander leur agrément au portrait de la duchesse de Montmorency avant de le faire éclairer pour l'historien, ou au thé avant d'en offrir une tasse. Parlez-lui fort, dit-elle à Bloch. Il est un peu sourd, mais il vous dira tout ce que vous voudrez. Il a très bien connu Bismarck, Cavour. N'est-ce pas, monsieur ? Dit-elle avec force. Vous avez bien connu Bismarck. Avez-vous quelque chose sur le chantier ? Me demanda M. de Norpois avec un signe d'intelligence en me serrant la main cordialement. J'en profitais pour le débarrasser obligeamment du chapeau qu'il avait cru devoir apporter en signe de cérémonie, car je venais de m'apercevoir que c'était le mien qu'il avait pris par hasard. Vous m'aviez montré une œuvrette un peu tarabiscotée où vous coupiez les cheveux en quatre. Je vous ai donné franchement mon avis. Ce que vous aviez fait ne valait pas la peine que vous le cougiez sur le papier. Nous préparez-vous quelque chose ? Vous êtes très féru de bergotte, si je me souviens bien. Ah ! Ne dites pas de mal de bergotte ! S'écria la duchesse. Je ne conteste pas son talent de peintre. Nul ne s'en aviserait, duchesse. Il s'est gravé au burin ou à l'eau-forte, sinon brossé, comme M. Cherbulier, une grande composition. Mais il me semble que notre temps fait une confusion de genre, et que le propre du romancier est plutôt de nouer une intrigue et d'élever les cœurs que de fignoler à la pointe sèche un frontispice ou un cul de lampe. Je verrai votre père dimanche chez ce brave A.J., ajouta-t-il en se tournant vers moi. J'espérais un instant, en le voyant parler à Madame de Guermantes, qu'il me prêterait peut-être, pour aller chez elle, l'aide qu'il m'avait refusée pour aller chez M. Swann. « Une autre de mes grandes admirations, lui dis-je, c'est Elstir. Il paraît que la duchesse de Guermantes en a de merveilleux, notamment cette admirable botte de radis que j'ai aperçue à l'exposition et que j'aimerais tant revoir. Quel chef-d'œuvre que ce tableau !» Et en effet, si j'avais été un homme en vue et qu'on m'eût demandé le morceau de peinture que je préférais, j'aurais cité cette botte de radis. « Un chef-d'œuvre ? » s'écria M. de Norpois avec un air d'étonnement et de blâme. « Ce n'a même pas la prétention d'être un tableau, mais une simple esquisse. » Il avait raison. Si vous appelez chef-d'œuvre cette vive pochade, que direz-vous de la Vierge, d'Hébert ou de Danian Bouvray ? J'ai entendu que vous refusiez l'ami de Robert, dit Madame de Guermantes à sa tante, après que Bloch eut pris à part l'ambassadeur. Je crois que vous n'avez rien à regretter, vous savez que c'est une horreur. Elle n'a pas l'ombre de talent, et en plus elle est grotesque. « Mais comment la connaissez-vous, duchesse ?» dit Monsieur d'Argencourt. « Mais comment? Vous ne savez pas qu'elle a joué chez moi avant tout le monde? Je n'en suis pas plus fière pour cela !» dit en riant Madame de Guermantes, heureuse pourtant, puisqu'on parlait de cette actrice, de faire savoir qu'elle avait eu la primeur de ses ridicules. « Allons, je n'ai plus qu'à partir » ajouta-t-elle sans bouger. Elle venait de voir entrer son mari, et par les mots qu'elle prononçait, faisait allusion au comique d'avoir l'air de faire ensemble une visite de noces, nullement au rapport souvent difficile qui existait entre elle et cet énorme gaillard vieillissant, mais qui menait toujours une vie de jeune homme. Promenant sur le grand nombre de personnes qui entouraient la table à thé, les regards affables, malicieux et un peu éblouis par les rayons du soleil couchant, de ses petites prunelles rondes et exactement logées dans l'œil comme les mouches, que savait viser et atteindre si parfaitement l'excellent tireur qu'il était, le duc s'avançait avec une lenteur émerveillée et prudente, comme si, intimidé par une si brillante assemblée, il eût craint de marcher sur les robes et de déranger les conversations. Un sourire permanent de bon roi d'Yveto, légèrement pompette, une main à demi dépliée, flottant comme l'aileron d'un requin à côté de sa poitrine, et qu'il laissait presser indistinctement par ses vieux amis et par les inconnus qu'on lui présentait, lui permettait, sans avoir à faire un seul geste, ni à interrompre sa tournée débonnaire, fainéante et royale, de satisfaire à l'empressement de tous, en murmurant seulement « Bonsoir, mon bon, bonsoir, mon cher ami, charmé, monsieur Bloch, bonsoir, Argencourt. » Et, près de moi, qui fut le plus favorisé quand il eut entendu mon nom, « Bonsoir, mon petit voisin. Comment va votre père? Quel brave homme !» Il ne fit de grandes démonstrations que pour Madame de Villeparisis, qui lui dit bonjour d'un signe de tête en sortant une main de son petit tablier. Formidablement riche, dans un monde où on l'est de moins en moins, ayant assimilé à sa personne, d'une façon permanente, la notion de cette énorme fortune, en lui, la vanité du grand seigneur était doublée de celle de l'homme d'argent. L'éducation raffinée du premier arrivant tout juste à contenir la suffisance du second. On comprenait d'ailleurs que ses succès de femme, qui faisaient le malheur de la sienne, ne fussent pas dus qu'à son nom et à sa fortune, car il était encore d'une grande beauté, avec, dans le profil, la pureté, la décision du contour de quelques dieux grecs. Vraiment, elle a joué pour vous ? Demanda Monsieur d'Argencourt à la duchesse. Mais voyons, elle est venue réciter avec un bouquet de lys dans la main et d'autres lys sur sa robe. Madame de Guermantes mettait, comme Madame de Villeparisis, de l'affectation à prononcer certains mots d'une façon très paysanne, quoiqu'elle ne roulât nullement les R comme faisait sa tante. Avant que M. de Norpois, contraint et forcé, n'emmenât Bloch dans la petite baie où ils pourraient causer ensemble, je revins un instant vers le vieux diplomate et lui glissai un mot d'un fauteuil académique pour mon père. Il voulut d'abord remettre la conversation à plus tard, mais j'objectai que j'allais partir pour Balbec. « Comment, vous allez de nouveau à Balbec? Vous êtes un véritable globe-trotteur !» Puis il m'écouta. Au nom de le roi Beaulieu, M. de Norpois me regarda d'un air soupçonneux. Je me figurais qu'il avait peut-être tenu à M. le roi Beaulieu des propos désobligeants pour mon père, et qu'il craignait que l'économiste ne les lui eût répétés. Aussitôt, il parut animé d'une véritable affection pour mon père. Et, après un de ces ralentissements du début où tout d'un coup une parole éclate, comme malgré celui qui parle, et chez qui l'irrésistible conviction emporte les efforts bégayants qu'il faisait pour se taire. « Non, non, » me dit-il avec émotion. « Il ne faut pas que votre père se présente. Il ne le faut pas dans son intérêt, pour lui-même, par respect pour sa valeur qui est grande et qu'il compromettrait dans une pareille aventure. Il vaut mieux que cela. Fût-il nommé, il aurait tout à perdre et rien à gagner. Dieu merci, il n'est pas orateur, et c'est la seule chose qui compte auprès de mes chers collègues. Quand même, ce qu'on dit ne serait que turlutaine. Votre père a un but important dans la vie. Il doit y marcher droit, sans se laisser détourner à battre les buissons. Fussent les buissons, d'ailleurs plus épineux que fleuris, du jardin d'Académus. D'ailleurs, il ne réunirait que quelques voix. L'Académie aime à faire un stage aux postulants avant de l'admettre dans son giron. Actuellement, il n'y a rien à faire. Plus tard, je ne dis pas. Mais il faut que ce soit la compagnie elle-même qui vienne le chercher. Elle pratique avec plus de fétichisme que de bonheur le faradassé de nos voisins d'au-delà des Alpes. Le roi Beaulieu m'a parlé de tout cela d'une manière qui ne m'a pas plu. Il m'a du reste semblé à vue de nez avoir partie liée avec votre père. Je lui ai peut-être fait sentir un peu vivement qu'habitué à s'occuper de cotons et de métaux, il méconnaissait le rôle des impondérables, comme disait Bismarck. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est que votre père se présente. Principiis obsta. Ses amis se trouveraient dans une position délicate s'il les mettait en présence du fait accompli. Tenez, dit-il brusquement d'un air de franchise en fixant ses yeux bleus sur moi. « Je vais vous dire une chose qui va vous étonner de ma part à moi qui aime tant votre père. Eh bien, justement parce que je l'aime, justement, nous sommes les deux inséparables, Arcades Ambo, parce que je sais les services qu'il peut rendre à son pays, les écueils qu'il peut lui éviter s'il reste à la barre, par affection. Par haute estime, par patriotisme, je ne voterai pas pour lui. Du reste, je crois l'avoir laissé entendre. » Et je crus apercevoir dans ses yeux le profil assyrien et sévère de le roi Beaulieu. Donc, lui donner ma voix serait de ma part une sorte de palinodie. À plusieurs reprises, M. de Norpois traite à ses collègues de fossiles. En dehors des autres raisons, tout membre d'un club ou d'une académie aime à investir ses collègues du genre de caractère le plus contraire au sien, moins pour l'utilité de pouvoir dire « Ah, si cela ne dépendait que de moi !» que pour la satisfaction de présenter le titre qu'il a obtenu comme plus difficile et plus flatteur. « Je vous dirai, conclut-il, que dans votre intérêt à tous, j'aime mieux pour votre père une élection triomphale dans 10 ou 15 ans. » Paroles qui furent jugées par moi comme dictées, sinon par la jalousie, au moins par un manque absolu de serviabilité, et qui se trouvèrent recevoir plus tard, de l'événement même, un sens différent. « Vous n'avez pas l'intention d'entretenir l'Institut du prix du pain pendant la fronde ?» demanda timidement l'historien de la fronde à M. de Norpois. « Vous pourriez là trouver un succès considérable ?» Ce qui voulait dire me faire une réclame monstre, ajouta-t-il en souriant à l'ambassadeur, avec une pusillanimité mais aussi une tendresse qui lui fit lever les paupières et découvrir ses yeux, grands comme un ciel. Il me semblait avoir vu ce regard. Pourtant, je ne connaissais que d'aujourd'hui l'historien. Tout d'un coup, je me rappelais. Ce même regard, je l'avais vu dans les yeux d'un médecin brésilien qui prétendait guérir les étouffements du genre de ceux que j'avais par d'absurdes inhalations d'essence de plantes. Comme, pour qu'il prît plus soin de moi, je lui avais dit que je connaissais le professeur Cottard, il m'avait répondu, comme dans l'intérêt de Cottard. « Voilà un traitement, si vous lui en parliez, qui lui fournirait la matière d'une retentissante communication à l'Académie de médecine. » Il n'avait osé insister, mais m'avait regardé de ce même air d'interrogation timide, intéressée et suppliante que je venais d'admirer chez l'historien de la Fronde. Certes, ces deux hommes ne se connaissaient pas et ne se ressemblaient guère, mais les lois psychologiques ont, comme les lois physiques, une certaine généralité. Et les conditions nécessaires sont les mêmes. Un même regard éclaire des animaux humains différents, comme un même ciel matinal des lieux de la terre situés bien loin l'un de l'autre et qui ne se sont jamais vus. Je n'entendis pas la réponse de l'ambassadeur, car tout le monde, avec un peu de brouhaha, s'était approché de Madame de Villeparisis pour la voir peindre. « Vous savez de qui nous parlons, Bazin ?» dit la duchesse à son mari.
« Naturellement, je devine, » dit le duc.
« Ah ! Ce n'est pas ce que nous appelons une comédienne de la grande lignée. »« Jamais !» reprit Madame de Guermantes s'adressant à Monsieur d'Argencourt. « Vous n'avez imaginé quelque chose de plus risible ?»«
C'était même drôlatique !»
interrompit Monsieur de Guermantes, dont le bizarre vocabulaire permettait à la fois aux gens du monde de dire qu'il n'était pas un sot et aux gens de lettres de le trouver le pire des imbéciles.
« Je ne peux pas comprendre, » reprit la duchesse, « comment Robert a jamais pu l'aimer.
Oh, je sais bien qu'il ne faut jamais discuter ces choses-là, » ajouta-t-elle avec une jolie moue de philosophe et de sentimental désenchanté.
« Je sais que n'importe qui peut aimer n'importe quoi. »
« Et, » ajouta-t-elle, car si elle se moquait encore de la littérature nouvelle, celle-ci, peut-être par la vulgarisation des journaux ou à travers certaines conversations, s'était un peu infiltrée en elle.
« Et c'est même ce qu'il y a de beau dans l'amour, parce que c'est justement ce qui le rend mystérieux. »
« Mystérieux ? Ah, j'avoue que c'est un peu fort pour moi, ma cousine, » dit le comte d'Argencourt.
« Mais si, c'est très mystérieux, l'amour, » reprit la duchesse avec un doux sourire de femme du monde aimable, mais aussi avec l'intransigeante conviction d'une wagnérienne qui affirme à un homme du cercle qu'il n'y a pas que du bruit dans la Walkyrie.
« Du reste, au fond, on ne sait pas pourquoi une personne en aime une autre. Ce n'est peut-être pas du tout pour ce que nous croyons, » ajouta-t-elle en souriant, repoussant ainsi tout d'un coup par son interprétation l'idée qu'elle venait d'émettre.
« Du reste, au fond, on ne sait jamais rien, » conclut-elle d'un air sceptique et fatigué.
Aussi, voyez-vous, c'est plus intelligent. Il ne faut jamais discuter le choix des amants.
Mais après avoir posé ce principe, elle y manqua immédiatement en critiquant le choix de Saint-Loup.
Voyez-vous, tout de même, je trouve étonnant qu'on puisse trouver de la séduction à une personne ridicule.
Bloch, entendant que nous parlions de Saint-Loup et comprenant qu'il était à Paris, se mit à en dire un mal si épouvantable que tout le monde en fut révolté. Il commençait à avoir des haines, et on sentait que pour les assouvir, il ne reculerait devant rien. Ayant posé en principe qu'il avait une haute valeur morale et que l'espèce de gens qui fréquentaient la boulie, cercle sportif qui lui semblait élégant, méritait le bagne. Tous les coups qu'il pouvait leur porter lui semblaient méritoires. Il alla une fois jusqu'à parler d'un procès qu'il voulait intenter à un de ses amis de la boulie. Au cours de ce procès, il comptait déposer, d'une façon mensongère, et dont l'inculpé ne pourrait pas cependant prouver la fausseté. De cette façon, Bloch, qui ne mit du reste pas à exécution son projet, pensait le désespérer et l'affoler davantage. Quel mal y avait-il à cela, puisque celui qu'il voulait frapper ainsi était un homme qui ne pensait qu'au chic, un homme de la boulie, et que, contre de tels gens, toutes les armes sont permises. Surtout à un saint, comme lui, Bloch.
Pourtant, voyez, Swann, objecta M. d'Argencourt, qui, venant enfin de comprendre le sens des paroles qu'avait prononcées sa cousine, était frappé de leur justesse et cherchait dans sa mémoire l'exemple de gens ayant aimé des personnes qui, à lui, ne lui eussent pas plu.
Ah, Swann, ce n'est pas du tout le même cas, protesta la duchesse. C'était très étonnant tout de même, parce que c'était une brave idiote. Mais elle n'était pas ridicule, et elle a été jolie.
Ouh, ouh, grommela Madame de Villeparisis.
Ah, vous ne la trouviez pas jolie?
Si, elle avait des choses charmantes, de bien jolis yeux, de jolis cheveux. Elle s'habillait, et elle s'habille encore, merveilleusement. Maintenant, je reconnais qu'elle est immonde, mais elle a été une ravissante personne. Ça ne m'a pas fait moins de chagrin que Charles l'ait épousée, parce que c'était tellement inutile.
La duchesse ne croyait pas dire quelque chose de remarquable, mais comme Monsieur d'Argencourt se mit à rire, elle répéta la phrase, soit qu'elle la trouva drôle, ou seulement qu'elle trouva gentil le rieur qu'elle se mit à regarder d'un air câlin, pour ajouter l'enchantement de la douceur à celui de l'esprit. Elle continua.
Oui, n'est-ce pas? Ce n'était pas la peine. Mais enfin, elle n'était pas sans charme, et je comprends parfaitement qu'on l'aimât. Tandis que la demoiselle de Robert, je vous assure qu'elle est à mourir de rire. Je sais bien qu'on m'objectera cette vieille rengaine d'Augier. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse? Eh bien, Robert a peut-être l'ivresse, mais il n'a vraiment pas fait preuve de goût dans le choix du flacon. D'abord, imaginez-vous qu'elle avait la prétention que je fisse dresser un escalier au beau milieu de mon salon. C'est un rien, n'est-ce pas? Et elle m'avait annoncé qu'elle resterait couchée, à plat ventre sur les marches. D'ailleurs, si vous aviez entendu ce qu'elle disait, je ne connais qu'une scène, mais je ne crois pas qu'on puisse imaginer quelque chose de pareil. Cela s'appelle les sept princesses.
Les sept princesses! Hoi, hoi, quel snobisme! S'écria Monsieur d'Argencourt.
Ah, mais attendez, je connais toute la pièce. C'est d'un de mes compatriotes. Il l'a envoyé au roi qui n'y a rien compris et m'a demandé de lui expliquer.
Ce n'est pas par hasard du Sar Péladan? Demanda l'historien de la Fronde avec une intention de finesse et d'actualité, mais si bas que sa question passa inaperçue.
Ah, vous connaissez les sept princesses?
Répondit la duchesse à M. d'Argencourt.
Tous mes compliments. Moi, je n'en connais qu'une. Mais cela m'a ôté la curiosité de faire la connaissance des six autres. Si elles sont toutes pareilles à celles que j'ai vues.
Quelle buse! Pensai-je, irritée de l'accueil glacial qu'elle m'avait fait. Je trouvais une sorte d'âpre satisfaction à constater sa complète incompréhension de Maeterlinck. C'est pour une pareille femme que tous les matins je fais tant de kilomètres. Vraiment, j'ai de la bonté. Maintenant, c'est moi qui ne voudrais pas d'elle.
Tels étaient les mots que je me disais. Ils étaient le contraire de ma pensée. C'étaient de purs mots de conversation, comme nous nous en disons dans ces moments où, trop agités pour rester seuls avec nous-mêmes, nous éprouvons le besoin, à défaut d'un interlocuteur, de causer avec nous, sans sincérité, comme avec un étranger.
« Je ne peux pas vous donner une idée, » continua la duchesse. « C'était à se tordre de rire. On ne s'en est pas fait faute, trop même, car la petite personne n'a pas aimé cela. Et dans le fond, Robert m'en a toujours voulu. Ce que je ne regrette pas, du reste, car si cela avait bien tourné, la demoiselle serait peut-être revenue, et je me demande jusqu'à quel point cela aurait charmé Marie Hénard. »
On appelait ainsi dans la famille la mère de Robert, Madame de Marsante,
veuve d'Hénard de Saint-Loup, pour la distinguer de sa cousine, la princesse de Guermantes-Bavière, autre mari, au prénom de qui ses neveux, cousins et beaux-frères ajoutaient, pour éviter la confusion, soit le prénom de son mari, soit un autre de ses prénoms à elle, ce qui donnait soit Marie-Gilbert, soit Marie-Edwige. D'abord, la veille, il y eut une espèce de répétition qui était une bien belle chose, poursuivit ironiquement madame de Guermantes. Imaginez qu'elle disait une phrase, pas même un quart de phrase, et puis elle s'arrêtait, elle ne disait plus rien. Mais je n'exagère pas, pendant 5 minutes. Oi, 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 s'écria monsieur d'Argencourt. Avec toute la politesse du monde, je me suis permis d'insinuer que cela étonnerait peut-être un peu. Et elle m'a répondu textuellement « Il faut toujours dire une chose, comme si on était en train de la composer soi-même. » Si vous y réfléchissez, c'est monumental, cette réponse. Mais je croyais qu'elle ne disait pas mal les vers, dit un des deux jeunes gens. Elle ne se doute pas de ce que c'est, répondit madame de Guermantes. Du reste, je n'ai pas eu besoin de l'entendre. Il m'a suffi de la voir arriver avec des lys. J'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas de talent quand j'ai vu les lys. Tout le monde rit. Ma tante, vous ne m'en avez pas voulu de ma plaisanterie de l'autre jour au sujet de la reine de Suède. Je viens vous demander l'amant. Non, je ne t'en veux pas. Je te donne même le droit de goûter si tu as faim. Allons, monsieur Wallner, faites la jeune fille, dit madame de Villeparisis à l'archiviste, selon une plaisanterie consacrée. Monsieur de Guermantes se redressa dans le fauteuil où il s'était affalé, son chapeau à côté de lui sur le tapis, examina d'un air de satisfaction les assiettes de petits fours qui lui étaient présentées. « Mais volontiers. Maintenant que je commence à être familiarisé avec cette noble assistance, j'accepterai un baba. Il semble excellent. » Monsieur remplit à merveille son rôle de jeune fille, dit monsieur d'Argencourt, qui, par esprit d'imitation, reprit la plaisanterie de madame de Villeparisis. L'archiviste présenta l'assiette de petits fours à l'historien de la Fronde. Vous vous acquittez à merveille de vos fonctions, dit celui-ci par timidité et pour tâcher de conquérir la sympathie générale. Aussi jeta-t-il à la dérobée un regard de connivence sur ceux qui avaient déjà fait comme lui. Dites-moi, ma bonne tante, demanda monsieur de Guermantes à madame de Villeparisis, qu'est-ce que ce monsieur a si bien de sa personne qui sortait comme j'entrais? Je dois le connaître parce qu'il m'a fait un grand salut, mais je ne l'ai pas remis. Vous savez, je suis brouillé avec les noms, ce qui est bien désagréable, dit-il d'un air de satisfaction. Monsieur le Grandin. Ah, mais Oriane a une cousine dont la mère, sauf erreur, est née Grandin. Je sais très bien, ce sont des Grandins de l'Éprevier. « Non, répondit madame de Villeparisis, cela n'a aucun rapport. Ceci, Grandin tout simplement, Grandin de rien du tout. Mais il ne demande qu'à l'être de tout ce que tu voudras. La sœur de celui-ci s'appelle madame de Cambremer. » « Mais voyons, Bazin, vous savez bien de qui ma tante veut parler !» s'écria la duchesse avec indignation. C'est le frère de cet énorme herbivore que vous avez eu l'étrange idée d'envoyer venir me voir l'autre jour. Elle est restée 1 heure, j'ai pensé que je deviendrais folle. Mais j'ai commencé par croire que c'était tel qu'il était, en voyant entrer chez moi une personne que je ne connaissais pas et qui avait l'air d'une vache. Écoutez, Oriane, elle m'avait demandé votre jour. Je ne pouvais pourtant pas lui faire une grossièreté. Et puis, voyons, vous exagérez, elle n'a pas l'air d'une vache, ajouta-t-il d'un air plaintif, mais non sans jeter à la dérobée un regard souriant sur l'assistance. Il savait que la verve de sa femme avait besoin d'être stimulée par la contradiction. La contradiction du bon sens qui proteste que, par exemple, on ne peut pas prendre une femme pour une vache. C'est ainsi que Madame de Guermantes, en chérissant sur une première image, était souvent arrivée à produire ses plus jolis mots. Et le duc se présentait naïvement pour l'aider, sans en avoir l'air, à réussir son tour, comme dans un wagon, le compère inavoué d'un joueur de bonneteau. Je reconnais qu'elle n'a pas l'air d'une vache, car elle a l'air de plusieurs, s'écria Madame de Guermantes. Je vous jure que j'étais bien embarrassée, voyant ce troupeau de vaches qui entrait en chapeau dans mon salon et qui me demandait comment j'allais. D'un côté, j'avais envie de lui répondre « Mais, troupeau de vaches, tu confonds, tu ne peux pas être en relation avec moi puisque tu es un troupeau de vaches. » Et d'autre part, ayant cherché dans ma mémoire, j'ai fini par croire que votre cambremère était l'infante Dorothée, qui avait dit qu'elle viendrait une fois, et qui est assez bovine aussi, de sorte que j'ai failli dire « Votre Altesse royale » et parler à la troisième personne à un troupeau de vaches. Elle a aussi le genre de gésier de la reine de Suède. Du reste, cette attaque de vive force avait été préparée par un tir à distance, selon toutes les règles de l'art. Depuis je ne sais combien de temps, j'étais bombardée de ces cartes. J'en trouvais partout, sur tous les meubles, comme des prospectus. J'ignorais le but de cette réclame. On ne voyait chez moi que « Marquise et Marquise de Cambremer », avec une adresse que je ne me rappelle pas, et dont je suis d'ailleurs résolue à ne jamais me servir. Mais c'est très flatteur de ressembler à une reine, dit l'historien de la Fronde. Oh, mon Dieu, monsieur, les rois et les reines à notre époque, ce n'est pas grand-chose, dit monsieur de Guermantes, parce qu'il avait la prétention d'être un esprit et moderne, et aussi pour n'avoir pas l'air de faire cas des relations royales auxquelles il tenait beaucoup. Bloch et monsieur de Norpois, qui s'étaient levés, se trouvèrent plus près de nous. « Monsieur, dit madame de Villeparisis, lui avez-vous parlé de l'affaire Dreyfus ?» Monsieur de Norpois leva les yeux au ciel, mais en souriant, comme pour attester l'énormité des caprices auquel sa dulcinée lui imposait le devoir d'obéir. Néanmoins, il parla à Bloch, avec beaucoup d'affabilité, des années affreuses, peut-être mortelles, que traversait la France. Comme cela signifiait probablement que M. de Norpois, à qui Bloch cependant avait dit croire à l'innocence de Dreyfus, était ardemment anti-Dreyfusard, l'amabilité de l'ambassadeur, l'air qu'il avait de donner raison à son interlocuteur, de ne pas douter qu'il fût du même avis, de se liguer en complicité avec lui pour accabler le gouvernement, flattait la vanité de Bloch et excitait sa curiosité. Quels étaient les points importants que M. de Norpois ne spécifiait point, mais sur lesquels il semblait implicitement admettre que Bloch et lui étaient d'accord? Quelle opinion avait-il donc de l'affaire qui pût les réunir? Bloch était d'autant plus étonné de l'accord mystérieux qui semblait exister entre lui et M. de Norpois que cet accord ne portait pas que sur la politique. Madame de Villeparisis ayant assez longuement parlé à M. de Norpois des travaux littéraires de Bloch. « Vous n'êtes pas de votre temps, » dit à celui-ci l'ancien ambassadeur. Et je vous en félicite. Vous n'êtes pas de ce temps où les études désintéressées n'existent plus, où on ne vend plus au public que des obscénités ou des inepties. Des efforts tels que les vôtres devraient être encouragés, si nous avions un gouvernement. Bloch était flatté de surnager seul dans le naufrage universel. Mais là encore, il aurait voulu des précisions. Savoir de quelles inepties voulait parler M. de Norpois. Bloch avait le sentiment de travailler dans la même voie que beaucoup. Il ne s'était pas cru si exceptionnel. Il revint à l'affaire Dreyfus, mais ne put arriver à démêler l'opinion de M. de Norpois. Il tâcha de le faire parler des officiers, dont le nom revenait souvent dans les journaux à ce moment-là. Ils excitaient plus la curiosité que les hommes politiques mêlés à la même affaire, parce qu'ils n'étaient pas déjà connus comme ceux-ci, et dans un costume spécial, du fond d'une vie différente et d'un silence religieusement gardé, venaient seulement de surgir et de parler, comme l'engrain descendant d'une nacelle conduite par un cygne. Bloch avait pu, grâce à un avocat nationaliste qu'il connaissait, entrer à plusieurs audiences du procès Zola. Il arrivait là le matin pour n'en sortir que le soir, avec une provision de sandwich et une bouteille de café, comme au concours général ou aux compositions de baccalauréat. Et ce changement d'habitude, réveillant l'hérétisme nerveux que le café et les émotions du procès portaient à son comble, il sortait de là tellement amoureux de tout ce qui s'y était passé que, le soir, rentré chez lui, il voulait se replonger dans le beau songe et courait retrouver dans un restaurant fréquenté par les deux parties des camarades avec qui il reparlait sans fin de ce qui s'était passé dans la journée et réparait par un souper commandé sur un ton impérieux qui lui donnait l'illusion du pouvoir, le jeûne et les fatigues d'une journée commencée si tôt et où on n'avait pas déjeuné. L'homme, jouant perpétuellement entre les deux plans de l'expérience et de l'imagination, voudrait approfondir la vie idéale des gens qu'il connaît et connaître les êtres dont il a eu à imaginer la vie. Aux questions de Bloch, M. de Norpois répondit. Il y a deux officiers mêlés à l'affaire en cours et dont j'ai entendu parler autrefois par un homme dont le jugement m'inspirait grande confiance et qui faisait d'eux le plus grand cas. M. de Miribel. C'est le lieutenant-colonel Henri et le lieutenant-colonel Picard. Mais, s'écria Bloch, la divine Athéna, fille de Zeus, a mis dans l'esprit de chacun le contraire de ce qui est dans l'esprit de l'autre, et ils luttent l'un contre l'autre, tels deux lions. Le colonel Picard avait une grande situation dans l'armée, mais sa moire l'a conduit du côté qui n'était pas le sien. L'épée des nationalistes tranchera son corps délicat, et il servira de pâture aux animaux carnassiers et aux oiseaux qui se nourrissent de la graisse de mort. Monsieur de Norpois ne répondit pas. De quoi palabre-t-il là-bas dans un coin? Demanda Monsieur de Guermantes à Madame de Villeparisis en montrant Monsieur de Norpois et Bloch. De l'affaire Dreyfus. Oh, diable! À propos, saviez-vous qui est partisan enragé de Dreyfus? Je vous le donne en mille. Mon neveu Robert. Je vous dirai même qu'au jockey, quand on a appris ses prouesses, cela a été une levée de boucliers, un véritable tollé. Comme on le présente dans 8 jours. Évidemment, interrompit la duchesse, s'ils sont tous comme Gilbert qui a toujours soutenu qu'il fallait renvoyer tous les Juifs à Jérusalem. Ah, alors, le prince de Guermantes est tout à fait dans mes idées, interrompit M. d'Argencourt. Le duc se parait de sa femme, mais ne l'aimait pas. Très suffisant, il détestait d'être interrompu. Puis il avait dans son ménage l'habitude d'être brutal avec elle. Frémissant d'une double colère de mauvais mari à qui on parle et de beaux parleurs qu'on n'écoute pas, il s'arrêta net et lança sur la duchesse un regard qui embarrassa tout le monde. Qu'est-ce qu'il vous prend de nous parler de Gilbert et de Jérusalem? Dit-il enfin. Il ne s'agit pas de cela. Mais, ajouta-t-il d'un ton radouci, vous m'avouerez que si un des nôtres était refusé au jockey, et surtout Robert, dont le père y a été pendant 10 ans président, ce serait un comble. Que voulez-vous, ma chère? Ça les a fait tiquer, ces gens. Ils ont ouvert de gros yeux. Je ne peux pas leur donner tort. Personnellement, vous savez que je n'ai aucun préjugé de race. Je trouve que ce n'est pas de notre époque,
et j'ai la prétention de marcher avec mon temps. Mais enfin, que diable! Quand on s'appelle le marquis de Saint-Loup, on n'est pas de Dreyfusard. Que voulez-vous que je vous dise ?